Alors ce soir dans Kézako, nous recevons Éric Labbé de l'association Survie 49. Bonsoir Éric. Et Delphine Djiraïbé. Bonsoir, je prononce bien, Delphine.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous prononcez très bien.
Vous êtes tchadienne et vous êtes coordinatrice d'une association qui travaille là-bas au Tchad. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette association?
Oui, en effet, je suis coordinatrice du comité de suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation, qui est un réseau d'associations de droits de l'homme, de femmes, de jeunes, des syndicats et des représentants des confessions religieuses qui, depuis novembre 2002, s'attellent à préparer un forum national pour la paix et la réconciliation qui se présente comme une alternative politique à la situation de non-paix que nous connaissons. Mmh. Cette situation qui est caractérisée par une insécurité généralisée, l'absence de démocratie, le processus démocratique qui est enclenché au Tchad depuis 93 est complètement en panne. Une crise politique et une crise sociale qui ont atteint leur paroxysme. La pauvreté est à son comble. Le commun des mortels tchadiens n'arrive pas à se nourrir, se vêtir comme il faut. On ne peut pas aller et venir comme on veut parce que les forces de sécurité exercent des violences sur tout le monde. Donc, devant cette situation de blocage total, l'initiative Paix et Réconciliation propose cette alternative qui consiste à amener tous les Tchadiens, le pouvoir, les partis politiques de l'opposition, les groupes en rébellion armée, la société civile et les représentants des populations à la base à une table de négociation pour, dans un premier temps, définir les conditions d'une élection libre, transparente et acceptable par tous et dans un deuxième temps, définir les conditions d'instauration d'une paix véritable et durable au Tchad.
Vous avez cité un grand nombre de problèmes que vit le Tchad en ce moment. Tous ces problèmes sont imbriqués, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une association qui fédère tous les gens sur place qui ont envie d'œuvrer. Enfin, pour vous, vous n'avez pas envie de prendre un problème en particulier parce que finalement quand on tire sur un problème, il y en a 50 qui viennent.
Tout à fait, parce que le problème, les problèmes qui se posent au Tchad en ce moment ont un dénominateur commun qui est la mauvaise gouvernance du pays. Donc, tout est lié à un système de pouvoir qui est basé sur la famille, sur le clan et qui gère le pays comme sa propre entreprise. L'argent est détourné, l'administration est complètement politisée, tout est trafic d'influence, clientélisme. Donc vous trouvez les personnes non qualifiées, non compétentes à des postes de responsabilité, donc évidemment ça cause problème parce qu'ils ne sont pas à la hauteur du travail qu'ils devraient faire. Les élections sont de tout temps truquées. On a connu deux élections présidentielles qui n'ont servi qu'à légitimer le pouvoir en place, qui est à la base un pouvoir militaire parce que ayant conquis le pouvoir par les armes. Et tout cela se fait malheureusement avec la bénédiction de la France qui soutient le pouvoir en place au détriment des populations.
Alors Éric, justement là on pourrait parler de survie parce que vous faites un travail de pédagogie beaucoup autour de la France-Afrique et notamment une brochure que vous avez éditée qui s'appelle « Les dictateurs amis de la France » point d'interrogation et point d'exclamation. Il est question de la France-Afrique dedans. Est-ce que vous pouvez nous présenter la France-Afrique, de quoi il s'agit?
Donc pour parler deux mots de survie, Survie est une association qui existe depuis une vingtaine d'années. qui au début a été créé après l'appel de 136 prix Nobel, je crois, pour la survie et le développement. Et quand ils ont étudié l'APD, donc l'aide publique au développement que verse la France à ses anciennes colonies notamment, ils se sont aperçus par différents calculs que cette aide, en fait, elle servait pas à lutter contre la pauvreté, mais à mettre et à conserver des pouvoirs dictatoriaux dans les anciennes colonies françaises. Donc il y a environ 3% de cette aide qui servirait vraiment à lutter contre la pauvreté. Le reste est détourné et revient dans en France, notamment dans les caisses noires de certains partis politiques. Donc Survie c'est vraiment intéressé à ce système. En 94, il y a eu le choc du Rwanda où on a vu qu'il y a eu là enfin une horreur, hein, parce qu'il y a eu un génocide, la France est fortement impliquée. Il y a enfin cette actualité puisqu'il y a
une enquête
qui a reçu des plaintes de six Rwandais qui accusent les militaires français d'avoir soutenu les génocidaires et notamment d'avoir participé à des opérations dans le pays visant à séparer les Tutsis des Hutus. Et donc ils ont fait un travail enfin énorme déjà de recherche pour parce que c'est quelque chose enfin de caché et de non dit. La France doit rester le pays des droits de l'homme. Donc notamment grâce à son président François-Xavier Verschaffe qui a fait un travail de recherche et de coordination pour assembler puis de rédaction, parce qu'en 98 le livre La France-Afrique, le plus long scandale de la République est sorti. Donc ça a été un bouquin qui n'a pas eu une couverture médiatique digne de son intérêt, mais qui c'est le premier bouquin vraiment, enfin le premier livre qui présente la France-Afrique. Après donc 2 ans plus tard, il a rédigé Noir Silence, qui est un livre qui va encore plus loin dans la dénonciation, notamment qui analyse la situation et notamment la violence qu'il y a eu dans différents pays, le Congo-Brazzaville où il y a eu un 97-98 plusieurs milliers de morts et des viols d'une guerre où il y a eu une couverture médiatique
minime.
Donc après depuis 2003 on va dire 2004, Survie essaye d'élargir on va dire son champ, notamment à travers des publications pédagogiques, donc comme la brochure qui fait environ une cinquantaine de pages, Le dictateur ami de la France, où on a une fiche par pays qui explique un peu la situation dans le pays, les liens avec la France. Bon, on apprend par exemple que Omar Bongo, qui est le dictateur gabonais depuis 1967, est un ancien membre des services secrets français.
Il y a énormément de révélations, non ? Enfin, dans une plaquette comme ça.
Voilà,
parce qu'après, effectivement, dans la première partie, il y a les fiches par pays, puis dans la deuxième partie, il y a une espèce de trombinoscope de bon nombre d'hommes politiques ou attachés à des hommes politiques français, de Mitterrand à Chirac, en passant par Pasqua. Oui, Jacques Faucard. Alors justement, pour revenir sur la France-Afrique, Jacques Faucard et Pasqua sont des membre important de... Mais alors, la France-Afrique, c'est pas vraiment une organisation structurée, qu'on appelle la France-Afrique.
Pour parler rapidement, c'est en De Gaulle, dans les années 60, voyant les anciennes colonies françaises voulant être indépendantes, et ayant peur de perdre tout l'intérêt des colonies, c'est-à-dire l'exploitation pétrolière, l'exploitation minière, l'exploitation, tout ce qui est matières premières, produits de l'agriculture. Il a chargé Jacques Faucard, qui était directeur des services secrets français, de mettre en place un système, un réseau visant à éliminer ou à corrompre les indépendantistes radicaux en mettant à la place des gouverneurs à la peau noire ou des dictateurs.
Ouais.
Donc il y a eu le cas du Fouet de Boigny entre 63 et 93 qui avait un patrimoine égal à la dette du pays, à peu près. Enfin, il a construit une réplique de la basilique Saint-Pierre dans son village à Yamoussoukro de sa casquette personnelle. Hein. De toute façon, ça, il le dit bien. Mais
d'accord.
Cet argent, il venait d'où Les Ivoiriens doivent se le demander. Mais donc
c'était un moyen pour la France de garder une emprise, c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme, quoi, de garder une emprise une fois l'indépendance des pays.
De Gaulle le dit dans son discours, il voulait garder la libre exploitation des ressources minières et pétrolières qu'ils ont découvert et qu'ils découvriront.
Et puis à cette époque, la France voulait atteindre aussi son indépendance énergétique, donc c'était ça passait par là.
L'uranium vient du Niger en grande partie, et le pétrole français, notamment du Gabon et du Congo, où Total Elf surtout est énormément présente.
C'est le cas au Tchad, alors, justement. Le pétrole, c'est une ressource. J'ai lu dans la brochure qu'il y avait un proverbe en Afrique qui dit « Si tu trouves du pétrole dans ton jardin, rebouche très vite le trou.
» Exactement, oui. Parce qu'il n'y a eu aucune histoire d'exploitation du pétrole en Afrique qui est heureuse. Quand on prend l'Angola, le Congo, le Gabon, ça a été des occasions de catastrophe, des occasions de renforcement des pouvoirs dictatoriaux qui sont en place. Et le cas du Tchad n'échappe pas malheureusement à la règle, quand bien même depuis les années 99 déjà, la société civile tant nationale qu'internationale avait tiré la sonnette d'alarme en disant, surtout à la Banque mondiale qui devait financer le projet, que certaines conditions devraient être en place avant qu'un tel projet puisse être engagé, tirant surtout des leçons de ce qui est arrivé au Nigeria, au Gabon, au Congo ou en Angola. Malheureusement, nous n'avions pas été écoutés et aujourd'hui, on se retrouve avec la catastrophe entre les bras parce que le projet de construction du pipeline est fini depuis un an.
Alors, un pipeline entre le Tchad et le Cameroun, c'est ça ?
Entre le Tchad et le Cameroun. Ça part du sud du Tchad en traversant une bonne partie de la forêt camerounaise pour se jeter dans la côte atlantique par Kribi. Donc, ça pose beaucoup de problèmes environnementaux, tant du côté du Cameroun que du Tchad. Mais au-delà de tous ces problèmes environnementaux, il y a toute la question de la gestion des revenus qui était l'épine dorsale de ce projet. Parce que la Banque mondiale s'était engagée dans ce projet en disant que le Tchad avait besoin de ses revenus pour lutter contre la pauvreté et se développer. Il y avait donc à l'époque une loi qui avait été votée par le Tchad pour gouverner la gestion de ses revenus. Cette loi a partager les revenus pétroliers entre quatre secteurs prioritaires qui sont appelés les secteurs de développement. Donc vous avez l'éducation, la santé, les infrastructures et le développement rural. Une partie de l'argent, 10%, devait être réservée aux générations futures et placée dans un compte offshore. 10%, 15% devait donc aller directement au budget de l'État pour les besoins de fonctionnement et 5% de cet argent devait revenir à la région productrice parce que c'est la région quand même qui subit les plus...
Puis c'est pas beaucoup 5%.
Voilà, 5% c'est pas beaucoup du tout.
Et qu'en est-il de cette loi alors?
Cette loi institue également un collège de contrôle qui devait donc veiller à l'application. Malheureusement, depuis octobre, la Banque mondiale elle-même a pris l'initiative de déposer son rapport d'achèvement du projet en prétextant que ils ont fini leur part de travail parce que la construction du pipeline est faite, l'argent est en train de tomber au Tchad. Donc
ils se retirent du jeu.
Le projet, à leur avis, est fini alors qu'on sait que les problèmes restent tout à fait entiers. Et le gouvernement, emboîtant le pas, a déposé son projet de modification de loi à l'Assemblée. L'Assemblée étant à majorité partie au pouvoir, on ne se doute pas du fait que cette modification va être votée. Donc la modification enlève les verrous qu'on a posés pour s'assurer au moins que cet argent du pétrole va servir à tout le monde. Les secteurs prioritaires ont vu le montant d'argent qui leur est alloué diminuer de 80%. Ils sont retombés à 65%. Et le nombre de secteurs prioritaires a augmenté. on a ajouté la sécurité donc au secteur prioritaire, ce qui veut dire qu'on donne au pouvoir carte blanche pour utiliser l'argent du pétrole pour faire la guerre.
Pour l'armée et la police essentiellement donc.
Voilà justement, et surtout pour acheter les armes pour faire la guerre. Ils ont supprimé le fonds des générations futures, donc il y a plus rien à faire avec les générations futures, quand bien même on sait que les effets sur l'environnement, c'est les générations futures qui vont les supporter plus. Et voilà, donc la loi perd complètement de sa substance. Et ajouter à cela des déclarations publiques du président Idriss Déby qui réclame maintenant sa souveraineté en disant je suis un pays souverain, je suis un président souverain, j'utiliserai de l'argent du pétrole comme je veux, et s'il y a des problèmes de sécurité, j'utiliserai l'argent du pétrole pour acheter des armes. Donc on tombe dans la même logique, dans la même situation où l'argent du pétrole a contribué à renforcer le pouvoir d'un dictateur.
Et des multinationales aussi, alors.
Ben, bien sûr, les multinationales
qui sont présentes et qui exploitent le pétrole. Et...
Tout à fait, parce que...
Et celles qui vont vendre les armes après aussi.
Tout à fait, tout à fait. Donc les enjeux sont au-dessus des intérêts des Tchadiens pratiquement. Et malheureusement, on a nos dirigeants qui font le jeu de multinationales, qui font les jeux de puissances internationales au détriment de leur population. Donc,
et tout ça avec le soutien de la France, on peut le dire, puisque le président actuel est un ami de la France, officiellement.
Oui, tout à fait. Et je crois que la France ne se cache pas pour le dire. Le sentiment qu'ont les Tchadiens en ce moment, c'est que la France soutient à bras le corps le président Déby. En 2003 déjà, quand le processus de la modification de la constitution au Tchad, parce que comme vous savez tous, ils modifient la constitution
quand
pour se pérenniser au pouvoir quand ils arrivent au terme de leur mandat. Le président Idriss Déby l'a fait également, donc maintenant il peut se représenter et être le président à vie du Tchad, et dans ce processus il est soutenu par la France, dont le ministre Darcos, je crois, était venu au Tchad 2 ou 3 jours après que l'Assemblée ait voté le principe de la modification de la Constitution pour féliciter Idriss Déby et dire sur les ondes de la radio nationale que Déby était déjà élu 2 fois. Donc,
il est là depuis 14 ans, en fait. Hein. C'est ce que tu disais, Eric, 91.
Ans, ça sera 15 ans
bientôt.
Ouais. Donc, il y a des faits qui sont là qui font croire que Déby est soutenu par la France, et que c'est comme partout ailleurs en Afrique ou dans les anciennes colonies françaises. On soutient un régime rejeté par les populations jusqu'à ce que le chaos ne s'installe avant d'utiliser les remèdes connus de tous.
Mais alors allons-y justement, des remèdes, votre association essaie d'en apporter, ou vous avez un but qui est pacifique, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui pensent effectivement qu'en renversant un pouvoir autoritaire par les armes, on va pouvoir installer la démocratie, ou c'est pas ce que vous pensez?
Oui.
Quel est votre point de vue, vous? Quelle est votre démarche?
Tout à fait. Nous pensons, et c'est ce que la société civile tchadienne pense, que la violence n'est pas la solution. Tout pouvoir qui s'installe par les armes, par la violence, se maintiendra par les armes, par la violence, et ne voudra jamais se livrer au jeu démocratique. C'est pourquoi, malgré qu'il y ait cette crise politique qui a complètement bloqué le processus démocratique, malgré que le découragement des acteurs politiques a atteint son comble, et certains se sont vus obligés de prendre les armes pour venir chasser Idriss Déby du pouvoir, nous restons sereins et nous disons que il faut une solution pacifique à cette crise. Il faut une alternative, mais une alternative pacifique. Et nous appelons tous les acteurs à une table de négociation, les partis politiques de l'opposition, les groupes en rébellion armée, la société civile, la communauté internationale qu'on interpelle pour qu'elle nous appuie dans ce processus, pour qu'un forum national pour la paix et la réconciliation se tienne. Et au cours de ce forum, des grandes décisions vont être prises quant aux élections pour qu'elles soient désormais transparentes et acceptables par tous. Et on va mettre des conditions en place pour résoudre les problèmes de sécurité, pour résoudre le problème de laxisme de l'administration, le problème de l'éducation, de la santé. Et toutes ces résolutions vont être consignées dans un pacte auquel les Tchadiens vont s'engager. Et un mécanisme donc de suivi de l'application de ce pacte va être mis en place de telle façon que quand ce processus va commencer, qu'on soit sûr que ça ne va pas rester dans les tiroirs comme les résolutions des autres sommets. Et on a commencé depuis 2002 à faire un travail de sensibilisation, des discussions avec les groupes composés au Tchad, de telle façon que chacun apporte sa pierre à la construction que nous sommes en train de faire. Le forum, nous voulons la tenir comme une alternative politique, je disais. Donc, avant toute élection, à partir de maintenant, nous savons que les échéances électorales arrivent au Tchad.
Alors, c'est quand ?
Les présidentielles, en principe, sont en mai 2006, mais le pouvoir dit déjà qu'il veut organiser les élections présidentielles le premier trimestre du mois de l'année 2006, ce qui pose problème.
Ça avance le calendrier.
Ils avancent un peu le calendrier et parallèlement, ils prorogent le mandat des députés jusqu'en 2007. Donc, il est clair que c'est possible de ne pas avancer le calendrier, voire même de le proroger aussi pour que les conditions se mettent en place, parce que dans les conditions actuelles, si on s'hasarde à aller aux élections, c'est encore aller légitimer un pouvoir dictatorial qui est rejeté par tous. Parce que le président Déby a modifié la constitution pour se représenter. Il ne se représentera pas pour ne pas gagner les élections. Donc, dans l'intérêt du Tchad et dans l'intérêt des Tchadiens, nous pensons qu'il faut que le recensement électoral se refasse, qu'il y ait un fichier électoral digne de ce nom, que le statut des partis politiques de l'opposition soit clairement défini et qu'on leur donne tant les moyens juridiques et matériels s'il le faut, si l'on veut que le jeu démocratique soit à la hauteur des espoirs, pour leur permettre de jouer leur rôle. Et en ce moment-là, on peut parler des élections, les candidats peuvent se présenter et le vainqueur prendra le pouvoir.
Est-ce que le pouvoir actuel vous met des bâtons dans les roues?
Nous, oui, évidemment, c'est un processus qu'ils ne comprennent pas, qu'ils prennent comme quelque chose qui menace leurs intérêts, mais nous leur
c'est vrai
nous leur expliquons que de toutes les façons ils ont plutôt intérêt à aller à la table du dialogue, parce que rien ne prouve que s'ils s'engagent dans le chemin de la guerre, rien ne prouve qu'ils vont gagner la guerre en ce moment, parce que il est difficile de dire que le président Déby a le même contrôle sur son armée qu'il l'avait il y a 13 ou 14 ans. Il y a des défections dans l'armée, il est plus proche parents le lâche. Donc la situation même au sein du clan au pouvoir fait dire que si Déby persiste à aller à la guerre, c'est pas sûr qu'il en sort gagnant.
Mais de quelle guerre vous parlez en fait? Une guerre interne, une guerre interne, avec l'armée?
Une guerre interne, parce qu'il y a des poches de rébellion en ce moment au nord, à l'est, qui menacent le pouvoir en place. Il y a eu un bon groupe de militaires qui ont quitté l'armée nationale pour aller se constituer en rébellion pour vouloir prendre le pouvoir en place. Et on les appelle au Tchad les deux jumeaux, qui sont les neveux du président Idriss Déby, qui depuis quelques jours ont quitté le Tchad. On ne sait pas dans quelle destination, mais ils ont déclaré qu'ils se constituaient maintenant opposants au président Déby. Donc il y a depuis l'annonce de la modification de la constitution qui permet donc à Déby de se présenter pour un troisième mandat, une guerre de succession qui s'est installée au sein de la famille et qui affaiblit déjà le régime. Donc le processus que nous proposons se présente comme une porte de sortie aussi pour Déby s'il sait l'attraper. Donc c'est en cela que je dis que le pouvoir en ce moment a intérêt à nous suivre dans cette logique. Et de toutes les façons, d'une manière générale, les gens sont au Tchad sont fatigués des situations répétées de violence, parce que ça engage beaucoup de pertes. Chacun a perdu un membre cher de sa famille dans cette situation de guerre, et personne n'a envie de recommencer et de se soumettre à nouveau à un régime qui aurait pris le pouvoir par les armes pour encore régner en dictateur.
Quel rapport vous entretenez avec la rébellion dont vous parliez à l'instant? Pour vous, ce sont de vrais opposants au régime actuel, ou finalement vous les considérez comme vous les mettez dans le même sac?
Pour nous, on n'entretient pas de rapport particulier avec les rébellions, mais c'est une dimension qu'on prend en compte dans ce processus. On ne veut exclure personne. Et c'est des gens qui ont pris des armes sous tous les prétextes possibles, qui veulent le pouvoir et qui trouvent toujours le prétexte de l'injustice, le prétexte de la répression et tout ça. Mais nous, c'est pas cela qui nous intéresse. La situation est là et nous proposons une solution. Nous souhaitons que tout le monde vienne à la table de négociation pour poser le problème qui les préoccupe sur la table pour qu'en tant que Tchadien, qu'on en discute pour trouver un dénominateur commun qui arrangerait tout le monde.
Eric, pour revenir à l'association Survie, tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure dans la bouche de Delphine, ce sont des choses que l'association essaie de mettre en valeur, de médiatiser, de faire connaître aux gens. Est-ce que c'est une tâche facile? Parce qu'on a l'impression de que vous criez un peu dans le désert. Enfin, quand on voit la brochure, on se dit vous mettez en cause ouvertement Chirac, Pasqua, enfin des gens qui sont encore dans le paysage politique français et qui ont une bonne place. Et pourtant, c'est absolument pas relayé dans la presse nationale ou internationale, très peu quoi. Comment vous analysez ça?
Bah disons que il y a quelque chose qui est flagrant en tout cas, c'est qu'on va critiquer beaucoup plus facilement la politique étrangère américaine que la politique étrangère française quoi. On voit toujours mieux la poutre, enfin la paille qu'il y a dans l'œil de son voisin que
la poutre dans le sien.
Mais donc c'est vrai que les grands médias nationaux, on va dire, se renseignent, enfin notamment on va dire Le Monde et Libération, au niveau de l'Afrique, avec les renseignements généraux. Donc, enfin, pour beaucoup en tout cas. Donc, évidemment, là, la France est toute blanche de ce côté-là.
Il y a le monde diplomatique, peut-être davantage.
Le monde diplomatique, il y a de rares articles qui vont dénoncer la France-Afrique. Mais malheureusement, faut noter l'exception d'une manière de voir du mois de. Printemps 2005 sur résistance africaine, mais il y aura on va dire 75% des articles sur la politique étrangère américaine quoi. Donc
ça occulte involontairement.
Mais Mais c'est vrai que c'est, on va dire que c'est pas un sujet porteur. La politique étrangère de l'Afrique n'est pas un sujet porteur et vendeur surtout. Enfin, surtout vendeur dans les médias, quoi. Donc, mais Survi, notamment, en plus de ses brochures, fait sort des dossiers noirs, on va dire périodiques et thématiques. Le dernier, c'était sur le Togo. Donc, il y en a un qui a été fait sur le Tchad et notamment l'oléoduc Tchad-Cameroun, mm-hmm. qui date qui a 5 ans, je crois. Mm-hmm. Donc là, ils interpellent sur le système aussi de l'exploitation des forêts, donc différents thèmes, que ce soit géographiques ou thématiques. Mm-hmm. Mais bon, c'est vrai que la répercussion n'est pas encore, on va dire. L'action attendue n'est pas là, mais bon, il y a des militants qui sont plus ou moins organisés, plus ou moins, enfin sur Angers on ne l'est pas encore trop, mais
oui, on va en parler. Ouais.
Dans certaines villes, ils font des bons travails, donc à travers des conférences, des projections, des débats. On est sur ville pour donner, on est actuellement, je crois, de l'ordre de 1700 adhérents au niveau national. Donc il y a des gros groupes locaux qui ont beaucoup de personnes, qui sont actifs, d'autres avec beaucoup de personnes moins actifs, mais bon, chacun son échelle essaye de faire parler de la France-Afrique avec ses moyens qui lui sont propres.
Et sur Angers alors, parlons-en.
Voilà, sur Angers.
Est-ce que c'est facile de fédérer et de réunir des gens sur cette cause ?
Disons que là, déjà c'est une cause qui est pas très connue, donc c'est pas forcément évident. Les gens, quand on leur en parle, découvrent. Moi, c'est vrai qu'il m'arrive d'aller dans la rue avec une table de presse derrière le vélo et de présenter des ouvrages de survie et d'essayer d'interpeller les gens. Bon, bah c'est très bon contact avec les gens, hein, souvent. Hein, les gens vont être intéressés, vont acheter une brochure, notamment la brochure qui a un très bon succès, là, la France Habilitateur qui est vendue 3 €, donc qui est accessible. C'est vrai que Survie essaye vraiment de se rendre accessible au plus grand nombre, donc d'éditer des petites brochures comme ça à 3 €, très accessibles, et des bouquins beaucoup plus importants comme La France-Afrique ou Noir Silence. Mais. Bon, c'est pas forcément évident, là. C'est vrai que moi, ça fait 2 ans que j'ai entendu parler, ça fait 2 ans que j'ai entendu parler de la France-Afrique à travers notamment son ancien président, François-Xavier Verschaff, qui est décédé, il y a quelques mois, fin juin. Donc, qui a fait un travail énorme, hein. Comme je le disais, c'est peut-être celui qui a d'ailleurs à vulgariser le terme France-Afrique, initialement employé par Houphouët Boigny pour parler des relations fortes qu'il y avait entre la France et l'Afrique, mais qui d'un aspect positif est passé à un aspect plutôt négatif, qui a servi à nommer ces relations quasi mafieuses, hein, parce que entre la France et les anciennes colonies françaises.
Donc on peut rentrer en contact avec toi directement, on peut donner peut-être des coordonnées de Survie 49.
Donc par téléphone, déjà au 06 66 23 11 36, et ce qui est plus pratique aussi par email à survie49@voila.fr. Donc vous avez ces adresses sur le site de Survie France. Dans la rubrique groupes locaux. Donc pour aller au site, c'est simple, vous tapez Survie sur n'importe quel moteur de recherche et vous tombez et directement sur ce site qui est très bien documenté. Donc il y a également sur ce site les billets d'Afrique et d'ailleurs, qui est le mensuel que Edith Survie. Donc sur le site vous avez vous avez pas les 2 derniers mois mais les numéros précédents, mais sinon, enfin, vous pouvez également adhérer. Survie a besoin de fonds, donc vous pouvez sur le site imprimer pour adhérer. Donc il y a plusieurs adhésions de 52 € à 15 € pour les petits budgets.
Sachant qu'il y a les déductions fiscales qui fonctionnent aussi pour Survie.
60% de déduction
66,
fiscale.
Ouais. 66. C'est toujours incitatif.
Voilà, 52 € qui correspond à 1 € par semaine.
L'État français finalement favorise l'adhésion à Survie, donc il faut en profiter.
Hein. Le donner de l'argent, français donner de l'argent à Survie.
Voilà. Delphine Jaribé, vous êtes en tournée un petit peu en France en ce moment.
Mm-hmm. Oui, je suis là pendant quelques jours et j'en profite un peu pour visiter les groupes de survie et parler un peu du Tchad, de notre initiative qui est totalement inconnue du
grand public.
français et interpeller les Français à nous soutenir dans ce processus et à demander de compte à leur État, parce que c'est l'argent du contribuable français que la France officielle utilise pour soutenir les dictateurs en Afrique. Donc ça serait très bien si les Français se mobilisent comme le fait Survie pour interpeller les
dirigeants
d'État, les dirigeants français.
Ouais, c'est vrai que Survie, enfin, donc en outre son travail de publication qui sert à informer à lancer des campagnes, surtout donc la campagne dictateur ami de la France, où Survie a envoyé une lettre systématique à tous les députés français en expliquant les revendications, et fait circuler également une pétition qu'on peut signer sur internet également pour demander l'arrêt de la France. Que la France arrête de soutenir des dictatures et que mette en place un système visant à transformer ces dictatures en démocratie, quoi, et à promouvoir la tournure démocrate, on va dire, de ces pays.
Merci beaucoup Eric Labbé, merci Delphine Tchiraïbé.
Merci infiniment.
Merci, puis Survie 49, vous êtes les bienvenus une prochaine fois dans Kézako.
Pas de problème.
Merci infiniment.